Et on va poursuivre, Emmanuel, donc avec Franck Philbien, donc président de la Commission nationale de VTT de la Fédération française de cyclisme. Franck Philbien, merci donc d'être ici. Cédric Ravanel, on a eu Julie Bresset ce matin, Maxime Marotte, Alexis Vullermoz, on aura Stéphane Tempier tout à l'heure. C'est des noms que vous connaissez très bien. Vous suivez tous ces champions vététistes français.
Oui, tout à fait. Je les rencontre dans les différentes épreuves nationales. Et puis, je les ai connus presque tout petits. Je pense à Julie Bresset, notamment, qui me faisait penser aussi aux épreuves qu'on voit aujourd'hui, où on voit la pluridisciplinarité avec le trial, avec le slalom vitesse, avec le cross-country. Et finalement, donc Julie, qui a terminé troisième dimanche à la Bresse, à la Coupe du Monde, mais qui a conservé son maillot de leader, en fait, elle sort de ces écoles pour les jeunes. Et on voit que maintenant, elle est au plus haut niveau, championne du monde l'année dernière des moins de 23 ans, vainqueur de la Coupe du Monde. Donc là, elle est leader de la Coupe du Monde chez les élites. Probablement, je lui souhaite le plus grand bonheur d'être sélectionné le 5 juin pour aller faire les Jeux Olympiques de Londres. Donc finalement, quelqu'un comme Julie, c'est quelqu'un qu'on voyait précédemment dans ces épreuves-là. Donc, je pense que la relève est aussi ici à Sillé-Guillaume.
Vous êtes là aussi présent donc pour suivre ces championnats de France UNESS VTT. Ça vous arrive de repérer comme ça quelques jeunes, quelques vététistes qui pourraient avoir une carrière dans le sport?
Alors, effectivement, on en connaît quelques-uns. J'en ai vu ce matin. Parce que dans le monde de l'UNSS, il y a aussi certains qui sont licenciés à notre fédération, qu'on rencontre dans différentes épreuves, au niveau régional ou au niveau national. Effectivement, aujourd'hui, ce sont sans doute ceux qui vont avoir les meilleurs résultats à scier. Mais derrière, c'est aussi, il faut toujours des locomotives pour tirer le train. Il faut que ce soit les exemples pour les autres. Et bon, je compte sur eux justement pour donner aussi un exemple de pratique sportive et puis de respect des règles. C'est important. Je voyais ce matin tous les jeunes officiels qui sont présents aujourd'hui. C'est impressionnant. Dans les épreuves de la Fédération française de cyclisme, on a moins de jeunes officiels. On en a au niveau du Trophée de France des jeunes vététistes qui correspond grosso modo à ce qu'on voit au niveau de l'UNSS, puisque chaque région est représentée par 18 pilotes maximum, des différentes catégories, benjamin, minime et cadet. Et donc là, il y a des jeunes officiels qui viennent, mais ça se met en place au fur et à mesure. C'est vrai aussi pour le Trophée de France de BMX, le Trophée de France des jeunes cyclistes. Mais par contre, on a un certain retard, je dirais, par rapport à l'UNSS sur l'implication des jeunes dès le plus jeune âge sur les règles de l'arbitrage.
Alors, si on parle du VTT plus en général, il y a beaucoup de licenciés, ça se pratique beaucoup le VTT.
Alors, au niveau de la fédération, on représente à peu près 23 000 licenciés sur 112 000 l'année dernière, donc en progression toujours cette année. Donc, ça représente à peu près 20%. Le BMX, qui est aussi qui collabore avec nous pas mal, correspond à peu près à 17%. Donc, entre BMX et VTT, avec une majorité de jeunes, on représente environ 40% des licenciés de la fédération. La fédération qui d'ailleurs a bien compris le message, puisque aujourd'hui, il faut le dire, malheureusement, les statuts actuels de la fédération font que sur 32 personnes au conseil d'administration, il y a un représentant du VTT, donc en l'occurrence moi-même, et un représentant du BMX, et 30 représentants du cyclisme dit traditionnel. Donc la proportion par rapport aux licenciés, on voit qu'il n'est pas respecté. Mais le président de la fédération, donc David Lapartien, a bien compris. Et de nouveaux statuts ont été adoptés l'année dernière par l'Assemblée générale. Et à partir de 2013, donc pour la prochaine Olympiade, s'appliqueront ces nouveaux statuts avec 4 représentants du VTT et 4 du BMX. Donc il y a quand même une volonté de reconnaître ces disciplines qui nous apportent aussi un certain nombre de résultats. Vous voyez à Pékin, avec premier et deuxième en BMX chez les filles et premier et deuxième en VTT avec Julien Absalon et puis Jean-Christophe Perrault. Bon, c'est quand même des disciplines qui sont à prendre en compte au niveau de la fédération.
Surtout que je crois que le cyclisme sur route perd du terrain et ça se voit même au niveau des compétitions. Il y a moins en moins de Français qui arrivent parmi les meilleurs à l'UCI.
Alors j'aurais été d'accord avec vous encore peut-être il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'effectivement, si le BMX a un taux de progression très important, le VTT un peu moins, mais la route ne perd plus de licenciés. Donc ça, c'est important. Par contre, vous avez raison, en termes d'organisation, on a quand même des difficultés. Il y a des difficultés économiques, forcément, il faut trouver de l'argent. Il y a des difficultés administratives. Il y a beaucoup de municipalités dans lesquelles on ne peut pratiquement plus faire des preuves sur route. Parce que vous savez, ils mettent des fameux ralentisseurs qui sont très bien pour la sécurité des gens, en face des écoles, des hôpitaux, etc. Mais le problème, c'est qu'organiser une course cycliste sur route avec ces ralentisseurs, c'est pas possible. Donc les gens sont obligés de ressortir des villes. Et du coup, le public vient moins. Donc voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Alors que le VTT, donc on est dans la nature, c'est, on va dire, c'est un petit peu plus facile. Quoi qu'on a tendance aussi à vouloir venir vers le public, parce que peut-être la critique qu'on peut faire du VTT, c'est que c'est souvent du public du VTT, quoi. Faire venir des gens qui connaissent rien à la discipline, les faire sortir de chez eux pour les emmener dans la campagne, c'est pas forcément évident. Et donc Cédric avait aussi la bonne information. Et puis vous avez, j'ai eu écouté l'interview tout à l'heure d'Alexis Buermoz par rapport au cross éliminator. Donc on a vu un exemple à la Bresse pendant la Coupe du Monde, enfin un monde phénoménal, où en fait là c'est une épreuve qui se déroule en plein centre-ville, avec des obstacles qui sont préparés pour ça. Et donc en fait on amène les compétitions au centre de la ville vers les spectateurs. Alors que longtemps la tendance aurait été un peu l'inverse, quoi. Le BMX lui dispose donc des pistes dans lesquelles c'est un espace clos, il y a aussi le problème de sécurité pour les enfants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents ont plus tendance à confier leurs enfants à des écoles de BMX ou des écoles de VTT, peut-être plus que sur la route. Mais pour finir mon reportage là-dessus, on peut dire que finalement, la partie route qui était en baisse jusqu'à l'année dernière, en fait, reprend un peu du poil de la bête. Et puis, vous parliez du résultat des Français, mais l'année dernière, au Tour de France, on a eu d'excellents résultats, et notamment avec Arnold Janson de la Française des Jeux, qui a terminé 15e du Tour, et qui, lui, venait du VTT, parce que, pour être honnête, il faisait que du VTT, il voulait pas entendre parler de la route. C'est simplement pour progresser que son entraîneur lui a dit, mais si, il faut faire un petit peu de route, et puis finalement, il y est venu, et puis il est rentré dans différentes équipes, notamment la Caisse d'Épargne, et puis maintenant la Française des Jeux, et puis c'est un de nos meilleurs jeunes. Donc, des gens comme Gadret aussi, sont des gens qui sont polyvalents, qui est autour d'Italie en ce moment. Donc, il y a plus de mix, maintenant, on va dire, entre les différentes disciplines. Il y a le cas de Jean-Christophe Perrault que j'ai pas pu attraper à la Bresse pour vous donner ses coordonnées, mais en fait lui aussi il est un peu en train d'attendre sa sélection possible pour les Jeux Olympiques, puisqu'on a trois places en tout comme étant dans les meilleures nations au monde, sachant qu'une place est prise probablement par Julien Absalon qui est nettement au-dessus du lot. Il reste deux places et aujourd'hui, mais il y avait 10 présélectionnés. Vous en avez interviewé quelques-uns.
On a eu Maxime Marotte, Alexis Vuillermoz, et puis on aura Stéphane Tempier voilà. Dans un instant, et Cédric Ravanel.
Je pense que Stéphane, ça sera probablement entre Stéphane Tempier et Maxime Marotte et Jean-Christophe Perrault. Après, c'est la direction technique nationale, bien sûr, qui fera son choix en collaboration avec le président. Mais on choisit pas les gens n'importe qui. Vous savez qu'on est obligé un an à l'avance de déposer auprès de la commission du sport de haut niveau du ministère des Sports les critères permettant de sélectionner les coureurs. Et donc après, l'année se passe. Et lorsque vous déposez la liste des coureurs qui sont donc sélectionnés pour les Jeux Olympiques, cette commission vérifie que les coureurs en question répondent aux critères. Donc on ne peut pas sortir quelqu'un du chapeau. Et aussi, on peut répondre à un coureur qui n'est pas retenu, alors qu'il pensait pouvoir l'être. Bah, s'il n'est pas dans les critères, c'est normal qu'il ne soit pas retenu.
Mmh. Alors parmi ces coureurs, certains ne seront pas évidemment au JO. Mais alors, ils ont l'esprit de compétition quand ils sont dans les courses. Mais j'imagine entre eux, par rapport à l'équipe de France, il n'y a pas de compétition sur la sélection au JO. C'est tout à fait...
Il y a forcément une sélection parce que les JO, c'est une fois tous les 4 ans. Donc chacun se bagarre.
Il y a un fair play, en fait.
Oui,
voilà,
vous avez raison. Les relations entre les coureurs sont tout à fait... c'est du fair play, mais dans la mesure où le VTT, c'est, on va dire, c'est moins un sport d'équipe que peut l'être la route. C'est plus apparenté à un effort solitaire. Donc, vous êtes sur votre vélo, même si on est dans un peloton, mais bon, assez vite, on est dans des petits groupes où on est isolé. Donc, on peut difficilement empêcher quelqu'un de faire quelque chose, par exemple... On pourrait peut-être le tasser dans des barrières ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout l'esprit de ces coureurs-là. Chacun fait un petit peu sa course de son côté en essayant de faire la meilleure performance possible. Et puis on voit les différentes Coupes du Monde qui ont pu avoir lieu, que ce soit en Afrique du Sud ou bien en République tchèque récemment ou là en France à la Bresse. À chaque résultat, c'est un coureur différent qui est devant, d'où le casse-tête chinois du sélectionneur national. Puisque la première partie de la saison, Stéphane Tempier pourra vous en parler, il a été très très performant. Et puis il l'est peut-être un petit peu moins maintenant, sur les deux dernières manches, notamment la manche de la Bresse. Donc c'est sur cet ensemble de la saison qu'il faudra juger. Mais les coureurs entre eux, ils s'entendent super bien, il y a une très très bonne ambiance.
Lors des compétitions olympiques, c'est les mêmes disciplines qu'ici, par exemple au championnat de France ou à la Bresse, trial, maniabilité, slalom vitesse et cross. Et est-ce que, deuxième question, est-ce que les Français sont meilleurs en cross que les autres?
Alors, en fait, le seul sport olympique dans le VTT, c'est le cross-country olympique.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle olympique, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas d'autres épreuves de VTT, ni de descente.
Par contre, au championnat du monde, il y a de la descente.
Au championnat du monde, il y a de la descente, voilà. Il y a la descente, il y a le trial, il y a le cross-country. Et il y a le relais aussi par équipe, qui est particulier, où là, chaque nation présente 4 coureurs, donc un junior, un espoir donc de moins de 23 ans, un senior et une dame. Et donc, il existe aussi les championnats d'Europe, pareil. Et pour revenir au cross éliminateur, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. En fait, il va y avoir cette année, pour la première fois en Autriche, un championnat du monde de cross éliminateur qui vient un petit peu remplacer, on va dire, ou mettre en parallèle du four cross. Donc, le four cross existait jusqu'à l'année dernière. Enfin, il existe toujours, hein, d'ailleurs. Au championnat du monde 2012, il y aura bien une épreuve de four cross. Mais le four cross, c'est une par à quatre, comme l'expliquait Cédric aussi. Donc les deux meilleurs sont qualifiés, mais on est sur une piste descendante, un peu typée BMX, donc qui est plus apparentée à de la descente.
En ski, il n'y a pas une épreuve qui ressemble.
Exactement.
Quatre skieurs qui partent et qui sautent et qui ont un
parcours. C'est exactement ça. Parcours, ouais. C'est tout à fait ça.
Évidemment, ça, c'est plus télégénique, je dirais. Ça, c'est... les médias sont de plus en plus présents, et donc ça, peut-être que la fédération a créé de nouvelles disciplines pour la télé, finalement.
En fait, on dépend du CI, l'Union Cycliste Internationale, et donc il existait le slalom parallèle, enfin le dual slalom, on va dire au niveau international, c'est-à-dire le même système mais à deux. Et en fait, l'UCI s'est aperçu que quand les deux sont sur la même piste et qu'il y a un problème de chute, eh bien, éventuellement, il n'y a plus de pilotes sur la piste, quoi. Ils sont tous les deux par terre, et ils trouvaient que c'était un peu dommage, donc ils ont inventé le 4 cross. Donc là, on part à 4, donc si les deux premiers tombent, il en reste encore deux sur la piste. Mais en fait, on s'aperçoit que ça pose un certain nombre de problèmes, notamment d'écologie, parce qu'il y a des pistes permanentes, donc pas de problème, mais notamment en France, on avait toutes les difficultés du monde à maintenir notre Coupe de France de four cross, puisque les stations qui n'ont pas de piste permanente, elles sont assez réticentes à passer des bulles au niveau de la montagne pour créer une piste qui va coûter énormément d'argent pour une cinquantaine de coureurs à peu près au départ. Et une fois que l'épreuve est terminée, on repasse les bulles pour remettre la montagne telle qu'elle était. Donc vis-à-vis du respect de la nature et de l'environnement, c'était pas forcément top. Et les sponsors de l'UCI aussi ne s'intéressaient plus à cette discipline-là. Donc finalement, on a retrouvé un fort cross sur du plat, qui est le cross éliminateur, où là c'est beaucoup plus facile d'organiser, puisque on peut le faire quasiment n'importe où. Il suffit de mettre des petits obstacles. Là, à la Bresse, le circuit faisait 700 mètres de long. Donc vous voyez, c'est en pleine ville, c'est très facile à faire. Et ça n'a pas d'impact par rapport à la nature. Et les gens sont plus enclins à aller faire ces épreuves-là. Parce que le four cross, il faut aussi avoir les protections, casque intégral, coudière, genouillère, etc. C'est quand même des zones un peu dangereuses.
Vous parlez donc d'environnement. On le voit ici, il y a le championnat de France UNSS, donc ici à Sillé-Plage. Au-delà de la compétition, c'est vraiment des valeurs aussi par le sport qui sont véhiculées aux jeunes. Je sais qu'ici, par exemple, question, on est en pleine nature, hein, sur le respect de l'environnement, par exemple. C'est pareil aussi, à la fédération de cyclisme, quand vous organisez des compétitions, il y a cet attachement
Tout à fait.
Il y a un label, je crois, lors des deux courses, non? Éco-label, développement durable.
Oui, tout à fait.
En UFOLEP, ça existe.
Oui, ça existe aussi au niveau de la Fédération française de cyclisme. Et puis, même dans notre réglementation, pour le VTT, c'est clair, parce qu'on a justement, juste pour l'anecdote, l'année dernière, eu un souci avec un coureur en finale de Coupe de France, qui est champion d'Europe, qui était en tête de la course. Mais lorsque les gens prennent des barres de céréales ou des tubes de gel, donc ils doivent conserver les emballages avec eux ou ils peuvent les jeter dans une zone qui est prévue à cet effet. Et en fait, le coureur en question, peut-être par erreur ou maladresse, donc il a jeté son tube de gel à l'extérieur de la zone. Et donc il a été disqualifié par les arbitres. Donc il a perdu finalement le classement général de la Coupe de France qui lui était acquis. Il l'a perdu sur cette erreur-là. Mais l'idée, c'est de dire du meilleur, du champion jusqu'au dernier. Et tout le monde doit respecter la nature. C'est vrai que c'est notre champ d'action. On est la plupart du temps dans la nature, même si de temps en temps, on peut rentrer dans les centres-villes. Et donc si nous-mêmes, on ne respecte pas la nature, au fur et à mesure, effectivement, nos terrains de jeu vont être fermés. On a un certain nombre de problèmes qu'on essaye de régler avec la fédération, justement, sur différents endroits en France où la pratique du VTT est interdite. Parce que, il y a des pratiques sauvages, parce que les municipalités trouvent plus simple de fermer les chemins plutôt que de collaborer avec les clubs locaux. On essaye de trouver des accords, bien sûr, En général, ça se passe bien. Mais il y a quand même un combat important à mener. On voit sur la partie cyclisme sur route, si vous voyez les images à la télévision, c'est vrai que quand les gens jettent leurs bidons sur le bord de la route, donc quand c'est le Tour de France, il y a toujours des gens pour les ramasser, mais c'est pas forcément le cas. Donc il y a quand même des consignes justement pour essayer d'éviter ce genre de choses. Ils font des bidons maintenant biodégradables, qui malheureusement coûte un peu plus cher que les bidons traditionnels.
Mais on peut peut-être excuser les coureurs en pleine, c'est vrai, en plein élan, en pleine course, on pas toujours peut-être conscience, de après, ça.
Alors au niveau du Tour de France, il y a un dossard vert qui est attribué tous les jours aux coureurs qui respectent le plus la nature. Mm-hmm. Et notamment, on parle des porteurs d'eau dans le temps, mais effectivement, si le coureur va récupérer les bidons de ses collègues, les ramène à la voiture de son directeur sportif pour les donner. Donc c'est une bonne chose. Sinon, les coureurs peuvent jeter leur bidon, effectivement. Mais nous, on ne souhaite pas que ça soit fait.
Voilà, on va vous laisser aller suivre les autres épreuves. Franck Philbien, merci d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions et puis pour faire connaître aussi à nos auditeurs un peu plus cette discipline qu'est le VTT, notamment. Sachez que le BMX, il y a un club à Conly. Le BMX conlinois, je crois.
Plusieurs clubs, il y en a un à La Ferté-Bernard aussi, voilà. Il y en a un à Conly. C'est vrai que le BMX et le VTT marchent bien, on peut le dire, parce que le VTT se renouvelle. Hein. On a parlé de nouvelles disciplines. Voilà, donc c'est important. Et ici, c'est le roi. On est ici dans un endroit vraiment propice à la pratique du VTT.
Un mot, Franck Philbien, sur l'endroit ici, la forêt de Sillé.
Je suis un peu nostalgique quand je reviens ici, parce qu'en fait, le VTT est arrivé en 88 en France. Donc c'est au moment où le VTT est rentré au niveau de la Fédération Française de Cyclisme. Mais moi, à titre personnel, j'ai commencé à pratiquer dans ces années-là, à peu près. Et les premières épreuves, les premières compétitions qu'on a faites, c'était ici. C'était Tourisme et Aventure, qui est un club qui existe toujours.
Qui organise la Gamelle Trophy
exactement,
en septembre. Hein.
Voilà. Et donc avec son président de l'époque, Jacques Boudevin, avec qui j'avais de très bonnes relations. Et donc c'est vrai, on a couru ici, j'ai donné un coup de main pour l'organisation, puis après le temps a passé.
C'était une très bonne école, en tout cas, pour
former
et devenir un professionnel.
J'ai passé mon brevet fédéral premier degré ici. Je connais un peu les lieux et c'est toujours un plaisir de revenir. Et en plus, vous nous accueillez sous le soleil, donc c'est vraiment bien.
Merci beaucoup, Franck Philbien. Donc, je rappelle, président de la Commission nationale VTT à la Fédération française de cyclisme. Donc, on vous laisse aller soutenir ces jeunes sur les épreuves de slalom et de trial. Merci. Et puis, restez avec nous, puisque là, on va voir une musique, le temps d'appeler Stéphane Tampier. Voilà. Merci. À tout de suite.
Une radio qui communique avec ses auditeurs, c'est normal. Des auditeurs qui communiquent avec leur radio, c'est encore mieux. Alors n'hésitez pas, laissez vos commentaires et remarques à redaction@fréquence-sig.org.